So a warm welcome to everyone who's joining us.
Bienvenue à vous tous qui êtes présents pour cette session parallèle sur le commerce électronique. Nous allons attendre encore quelques minutes pour que tout le monde puisse s'installer. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Bienvenue au siège de la FAO et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne également. Je suis Barbara Peterson, experte de la mise en œuvre de la facilitation et je travaille dans l'unité de mise en œuvre et facilitation au secrétariat de la CIPV. Je vais animer cette session. Avant de commencer, sachez que vous avez une interprétation simultanée dans les 6 langues de la FAO et cette session est enregistrée également. L'enregistrement sera téléchargé sur le site web de la CIPV à la fin de la session de la CMP. Donc vous pourrez, n'hésitez pas à chercher cet enregistrement pour le partager avec vos collègues. J'ai l'honneur de donner la parole au secrétaire de la CIPV, Osama El-Lissi, qui va prononcer quelques mots de bienvenue pour ouvrir cette session parallèle sur le commerce électronique. Monsieur Osama, c'est à vous, Osama El-Lissi. Merci beaucoup, Barbara. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Bienvenue à cette session parallèle sur le commerce électronique. Nous apprécions que vous utilisiez une partie de votre temps sur la pause déjeuner pour assister à cette réunion, pour écouter les présentations et participer à nos échanges. Comme vous le savez, l'augmentation mondiale du commerce électronique a entraîné une modification transformative de la façon dont les biens sont achetés, vendus et se déplacent dans le monde. Bien sûr, cela représente des opportunités économiques, mais la croissance du commerce électronique présente également des défis importants pour les organisations nationales de protection des végétaux, à cause de la potentielle diffusion de nuisibles des végétaux avec les paquets qui suivent leur parcours par voie postale ou par coursier. La croissance significative du volume de colis exerce beaucoup de pression sur les systèmes d'exportation et importation phytosanitaires dans le monde. Intercepter des colis qui contiennent des produits qui ne répondent pas aux exigences en matière d'importation, aux exigences phytosanitaires en matière d'importation du pays destinataire, eh bien c'est une des plus grandes difficultés auxquelles font face les ONPV. Gérer le commerce électronique et la filière postale et des coursiers est une des principales priorités dans le cadre stratégique de la CIPV pour la période 2020-2023. Le cadre stratégique et son programme de développement sur le commerce électronique est supervisé par le comité chargé de la mise en œuvre et du développement des capacités, avec bien sûr des contributions du comité et des normes. Cela montre bien l'importance de cette problématique pour l'ensemble de la communauté de la CIPV. Une équipe IC a été constituée en 2020 pour guider les travaux de la CIPV. D'ailleurs, nous sommes encore en phase d'apprentissage à ce jour. Cette équipe IC a travaillé avec de nombreux experts de la question au niveau mondial pour élaborer des directives exhaustives et une vidéo infographique afin d'organiser cette session parallèle. Cette session sur le commerce électronique mettra l'accent sur différents points importants, y compris les risques phytosanitaires associés au commerce électronique, le mouvement des plantes, des produits des plantes via les services postaux et de coursiers et les stratégies possibles visant à réduire au minimum ces risques. En outre, cette session sera une occasion également pour les pays d'échanger leurs expériences, leurs réflexions et les possibles solutions face aux défis représentés par l'expansion rapide du commerce électronique et par le paysage en constant changement des technologies numériques. Nous avons la grande chance aujourd'hui d'avoir avec nous un groupe d'experts du commerce électronique. Ils sont ici avec nous aujourd'hui et ils vont nous faire part de leurs connaissances, de leur expérience de travail sur ce sujet très important. Nous tenons à vous remercier de votre présence, de votre participation aujourd'hui. Je tiens à remercier tout particulièrement l'Union Postale Universelle, UPU, qui a accepté de mettre à notre disposition une intervenante expert pour cette session qui nous donnera donc des informations précieuses. Je sais que nous attendons tous avec impatience d'en apprendre plus sur la sécurité postale, les initiatives visant à atténuer et trouver des solutions face au commerce illicite suivant la filière postale. J'aimerais également reconnaître et remercier l'équipe IC sur le commerce électronique. Je remercie la NAPO, la COSAVE, l'EPO, qui sont des partenaires du secrétariat de la CIPV et qui ont été des partenaires donc pour co-organiser cette session parallèle. Je pourrais vous faire part de ma expérience personnelle du commerce électronique. Il y a 3 ou 4 ans, le monde a été témoin de colis contenant des semences non demandées qui arrivaient dans différentes parties du monde. Et je pense que les ONPV, tous ceux qui travaillent dans le domaine du risque phytosanitaire, sont au courant de ces colis de semences, petit nombre de semences. Il s'agissait de transactions commerciales. Je crois qu'on a eu quasiment 600 000 colis de ce type qui avaient été délivrés dans le cadre du commerce électronique. Et cela a vraiment fait naître beaucoup de préoccupations pour les ONPV. Tous ces colis ont dû être récupérés auprès de citoyens particuliers, des particuliers, pour pouvoir les analyser et voir s'ils présentaient des risques phytosanitaires. Alors, c'est vraiment formidable de pouvoir travailler avec tous les collègues des ONPV. Ce problème a été traité rapidement et efficacement. Et d'où l'importance de continuer à travailler dans ce domaine du commerce électronique pour trouver des solutions qui puissent être mises en œuvre dans le monde entier. Merci encore de votre présence aujourd'hui et j'attends avec impatience les discussions productives qui vont avoir lieu. Merci beaucoup pour ces mots de bienvenue. Merci d'avoir présenté le sujet de notre session. Vous allez maintenant voir une brève vidéo intitulée « Gérer le risque phytosanitaire représenté par le commerce électronique ». Lançons la vidéo, s'il vous plaît. Saviez-vous que le commerce électronique produit 5000 colis chaque seconde? Cela veut dire 436 millions de colis qui se déplacent dans le monde par courrier postal ou par coursier chaque jour. La plupart de ces colis ne représentent pas de risque phytosanitaire, mais certains contiennent des plantes ou des produits végétaux qui peuvent transporter avec eux des nuisibles qui pourraient avoir un impact dévastateur sur l'agriculture et l'environnement. C'est pourquoi la CIPV, un traité intergouvernemental hébergé par la FAO, a inclus dans son cadre stratégique le commerce électronique en tant que priorité. Les organisations nationales de protection des végétaux, les ONPV, les organisations douanières, les services postaux et de coursiers, les plateformes de commerce électronique, les vendeurs et les acheteurs ont tous un rôle important à jouer pour réduire les risques phytosanitaires liés au commerce électronique. Les ONPV doivent veiller à ce que les exigences en termes d'importation phytosanitaire sont bien claires et disponibles à toutes les parties prenantes, y compris les vendeurs qui se trouvent en dehors de leur pays. En travaillant ensemble avec les organisations douanières, eh bien, c'est tout à fait essentiel pour coordonner les inspections en temps voulu des colis présentant des risques élevés. Des techniques d'inspection non intrusives peuvent être utilisées pour surveiller un grand nombre, un grand volume de colis afin de découvrir ce qui contiennent des semences, des plantes, des bulbes, des insectes ou d'autres produits réglementés à la frontière. Les services postaux et de coursiers jouent également un rôle essentiel. Ils doivent informer les exportateurs du fait que tous les matériaux végétaux doivent être identifiés au moment de la déclaration douanière et que certains types de produits peuvent être interdits ou qu'il peut y avoir des restrictions ou que l'on peut exiger des certificats phytosanitaires pour leur importation. Lorsqu'on achète en ligne, il est essentiel pour les acheteurs de faire les recherches nécessaires et de n'acheter que auprès de commerçants en ligne reconnus pour garantir que les biens vendus répondent aux exigences d'importation. Et bien sûr, acheter auprès d'acheteurs tout rond dans le même pays doit présenter un processus plus simple puisque là, aucun certificat phytosanitaire n'est nécessaire. Il faut vraiment penser avant de cliquer. Le nouveau guide publié par la CIPV donne des orientations pour réduire les risques phytosanitaires associés au mouvement international de ces produits. En travaillant ensemble, nous pouvons faciliter le commerce sans danger des plantes et des produits végétaux tout en prévenant l'introduction et la propagation de nuisibles dommageables qui peuvent être associés au commerce en ligne. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est disponible sur le portail de la CIPV. C'est une vidéo YouTube qui est disponible en anglais avec des sous-titres dans toutes les langues officielles de la FAO. Nous vous encourageons à diffuser largement cette vidéo, à l'utiliser dans votre ONPV pour sensibiliser sur les risques phytosanitaires liés au commerce électronique. Notre premier intervenant aujourd'hui est Monsieur Thorvald Geuze, conseiller spécial du directeur de la sécurité des produits de la consommation aux Pays-Bas, le point de contact de la CIPV. Il supervise le système de certification des exportations et joue un rôle qui est clé dans les processus de certification électronique. Thorvald est très actif également dans la communauté de la mise en œuvre et du développement des capacités. Il est vice-président du comité, entre autres choses. Thorvald, vous avez la parole.
Thank you for that.
Merci de m'avoir présenté, Barbara. Bienvenue, chers collègues, à cette session. Dans cette présentation, je vais présenter rapidement les difficultés rencontrées par des ONPV pour ce qui est du commerce électronique. Je parlerai de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique et des différentes ressources de la CIPV sur le commerce électronique et où trouver ces ressources. Il y a de nombreux défis, de nombreux enjeux, vous les connaissez certainement. Dans le domaine du commerce électronique, il y a un grand volume de petits colis qui se déplacent dans la filière postale et de coursiers, généralement sans passer par les points d'inspection normaux, des ventes directes aux consommateurs, de nouveaux vendeurs ou acheteurs qui ne sont pas actifs de façon très fréquente, des informations limitées sur le contenu des colis, une anonymité également, l'anonymat de l'Internet qui rend difficile l'identification des vendeurs et également parfois des mauvaises représentations délibérées, des fraudes. Donc, les acheteurs ne sont peut-être pas conscients que les produits qu'ils achètent viennent d'un autre pays. Et les produits, les plantes, peuvent même venir d'un autre pays que celui du magasin en ligne. Les vendeurs ne sont peut-être pas conscients des exigences en matière d'importation du pays du consommateur et peuvent choisir d'envoyer des biens en espérant que le colis ne soit pas intercepté. Le vendeur peut considérer que les amendes qu'il pourrait recevoir font partie des affaires. Ces facteurs exercent des pressions sur les composantes des systèmes d'exportation phytosanitaire avec les inspections, les certifications d'exportation, les systèmes d'importation également avec les interventions liées aux risques, les inspections à la frontière, les transactions, etc. Pour ce guide, nous avons conçu un diagramme qui représente la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique. Ce diagramme décrit donc la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique et les points critiques au long de cette chaîne. Tout commence avec un acheteur qui achète des plantes ou des produits végétaux sur l'Internet. Souvent, l'acheteur n'est pas conscient de l'origine des produits qui sont vendus. Et même si l'acheteur est conscient de la nationalité de la boutique en ligne, bien cela ne veut pas dire que les plantes viennent du même pays. Alors, le vendeur traite la commande et normalement, il vérifie les exigences en matière d'importation du pays de destination où se trouve l'acheteur. Mais dans la plupart des cas, ils ne le font pas. Souvent, en toute connaissance de cause, parfois sans connaissance de cause, des végétaux qui ne remplissent pas les exigences sont envoyés de cette façon. Les colis transitent par le service postal ou de coursier et le vendeur devrait fournir les informations suffisantes à ce service postal ou de coursier pour les déclarations liées aux importations dans le pays de destination, mais souvent les informations fournies sont très limitées et les douanes ne sont pas toujours en mesure de reconnaître des produits réglementés qui devraient être stoppés, interceptés avant d'être vérifiés pour l'importation par les ONPV. Il y a différentes ressources de la CIPV sur le commerce électronique. Vous venez de voir la vidéo infographique qui est disponible avec des sous-titres dans toutes les langues de la FAO, comme cela a été dit. Cette vidéo et les autres ressources de la CIPV se trouvent sur le portail phytosanitaire international dans la catégorie objectifs stratégiques. Santé des végétaux, commerce sans danger, vous cliquez sur commerce électronique et vous arrivez donc sur la page opportune. Et sur cette page, vous pouvez voir comment les activités de la CIPV sur le commerce électronique est liée aux objectifs stratégiques de la CIPV et également aux objectifs de développement durable des Nations Unies et comment cela contribue à ces objectifs. Ici, vous avez un instantané de la nouvelle page web sur le commerce électronique avec les faits saillants, les informations générales, les contributions aux ODD, les vidéos de la CIPV, la vidéo infographique que nous venons de voir et d'autres vidéos, des liens vers le guide de la CIPV sur le commerce électronique, la certification des exportations et la vérification des importations, des articles de presse liés au commerce électronique et également un lien pour pouvoir transmettre des ressources qui sont très importantes. Il s'agit de matériel phytosanitaire qui ont été élaborés par des ONPV, des ORPV ou d'autres organisations et qui sont mises à la disposition de la communauté phytosanitaire. Il y a certaines ressources extérieures, par exemple, qui viennent de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Union postale universelle et de certaines ONPV. Nous avons Suzanne Patnod de l'UPU qui va intervenir plus tard pendant cette session en expliquant comment les ONPV peuvent coopérer avec l'UPU. Si vous avez des études de cas intéressantes en la matière, des expériences ou des procédures ou autres types de matériel, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les envoyer au secrétariat de la CIPV pour que cela soit révisé et, selon qu'il convient, publié en tant que ressource transmise par les partenaires. Récemment, le guide sur le commerce électronique a été publié. Il s'agit d'un guide visant à gérer les risques phytosanitaires représentés par les biens commandés en ligne et distribués ensuite par les services postaux ou de coursiers. Il identifie les principales difficultés pour les ONPV, donne des orientations pratiques pour améliorer la coopération avec les principales parties prenantes. Il met en exergue les activités avant la frontière et à la frontière que les ONPV peuvent mettre en œuvre pour atténuer le risque phytosanitaire et il inclut plusieurs études de cas. La version anglaise du guide a été publiée en octobre 2023. La traduction en espagnol sera bientôt disponible. Nous sommes encore en train de chercher des partenaires pour traduire ce guide dans d'autres langues officielles de la FAO. Alors, si vous pouvez nous aider dans ce domaine, si vous pouvez vous-même ou vous connaissez quelqu'un qui peut avoir des ressources pour la traduction, faites-vous connaître. Le guide contient des informations sur la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique et des études de cas intéressantes provenant de différentes parties du monde qui permet de montrer quelles sont les difficultés, les pratiques, les expériences des ONPV face au commerce électronique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Thorvald. Je vais maintenant donner la parole à Bruno Galante, qui est un fonctionnaire législatif de l'Agence d'inspection alimentaire du Canada, dans la section des programmes sur les espèces exotiques envahissantes. Il travaille notamment sur le commerce électronique pour pouvoir renforcer la collaboration entre les différentes autorités et les différents domaines. Il travaille avec les partenaires au niveau national et international. Bruno est également membre du groupe de travail qui a rédigé le guide de la CIPV sur le commerce électronique en 2023. Bruno, vous avez la parole.
Does it work now? Hello? Okay. Thank you, Barbara.
Merci, Barbara. Merci de m'avoir présenté. Merci de me donner la possibilité de parler devant vous aujourd'hui sur le commerce électronique. Alors, vous l'aurez peut-être deviné par le titre de mon exposé, je vais parler de ce que nous avons fait dans le cadre de l'agence d'inspection pour sensibiliser aux risques liés à l'achat sur Internet. Je vais vous parler d'études de cas. Le Canada a d'ailleurs présenté une des études de cas et je vais vous parler un petit peu plus précisément des résultats de cette étude de cas. Rapidement, cette agence d'inspection alimentaire du Canada a surtout trois grands mandats, donc aspect phytosanitaire, approvisionnement en alimentation et santé des végétaux et santé des animaux. Un des objectifs en tant qu'ONP est de soutenir la sécurité alimentaire, de lutter, d'adopter des mesures phytosanitaires, et nous basons sur la loi de protection des végétaux, et qui détermine l'importation et l'exportation des organismes nuisibles, notamment par la mise en place de réglementations qui régissent, de règles qui encadrent l'achat, le commerce de ces organismes.
Okay. Thank you. Now, for the same reasons, essentially.
D'ailleurs, comme cela a été dit ailleurs, dans le cadre du GAD, dont a parlé Zorbald, d'autres documents, de l'OMM, l'Organisation mondiale des douanes, etc. Donc, un des grands problèmes, c'est pas tellement qu'on n'a pas d'autorité, on n'a pas d'instance, nous en avons, sur le commerce en ligne et hors ligne, mais c'est surtout le fait que maintenant, les particuliers ont un accès peut-être plus facile aux achats dans le monde entier, et donc il faut assurer le respect des règles, et puis veiller au respect de ces règles et des exigences phytosanitaires. Comme je l'ai déjà dit, et ça a déjà été dit, il y a de grands volumes d'envois, de petits colis parfois, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Ça peut être des semences, des insectes, du bois, et puis ça permet de transférer des marchandises très très rapidement, de façon très très facile. Et puis, souvent, le grand public ne connaît pas très bien les règles de protection phytosanitaire, ne sait pas véritablement qui est chargé du respect de ces règles phytosanitaires. En général, avant de cliquer, on ne vérifie pas véritablement ces règles. Et puis, parfois, on reçoit un petit peu plus que ce qu'on avait que ce qu'on avait commandé. Et donc, ce que nous avons essayé de faire pour rééquilibrer un petit peu le chose, c'est de lancer une campagne de sensibilisation à partir de 2020-2021, dont l'objectif, justement, c'est de mieux faire connaître les règles de protection phytosanitaire sur les différents produits, les différentes marchandises qui peuvent représenter un risque, et surtout sur le rôle et responsabilité des consommateurs, des acheteurs, mais des vendeurs. Et donc, on essaye d'inciter les acheteurs potentiels à réfléchir quelques secondes, quelques instants avant de cliquer, avant d'acheter. Donc, de campagnes de publicité, des campagnes de sensibilisation, contenu web, ce que vous voyez ici, par exemple, ici, et c'est un certain nombre de sites web que nous avons créés, que nous avons conçus, avec un certain nombre de contenus que vous pouvez retrouver également dans les différentes campagnes de sensibilisation. Alors, il y a par exemple des publicités sur lesquelles on peut cliquer pour avoir plus d'informations, comme par exemple le bouton que vous voyez ici en haut à droite. Vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir plus de renseignements. Et puis, nous avons également des stratégies de marketing, des moteurs de recherche. On peut promouvoir un certain nombre de contenus selon le contexte et selon votre pays d'origine. Par exemple, on essaye de mettre plus en évidence un certain nombre de messages, que ça soit pas en tout petit, tout en bas, mais que ça soit plus visible, par exemple, en haut de la page. Autre exemple qui faisait partie de notre campagne, et récemment j'ai appris que GIF, c'est Graphic Interchange Format. Ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, je vais vous juste montrer cet exemple.
So now it's just repeating, but so you get the idea.
Bon, ça c'est juste, ça répète un petit peu ce que j'ai déjà dit pour que vous ayez une idée de notre campagne. Alors les résultats, quels sont-ils? Bon, on estime que c'est une campagne assez réussie. Et puis j'ai oublié de dire tout à l'heure que la campagne de publicité ça touchait également la santé animale, la sécurité alimentaire, pas simplement les aspects phytosanitaires. Donc il y avait d'autres éléments, mais sur 2 mois, eh bien, on a eu environ 300 000 clics. Donc ça veut dire que c'est 300 000 recherches d'informations supplémentaires et puis 100 millions d'impressions. Et donc c'est apparu sur un grand nombre de réseaux sociaux, de plateformes. Donc ça a eu lieu de février à mars, et c'était un bon timing parce que c'est à ce moment-là qu'on réfléchit, surtout au Canada, à ce qu'on va planter au printemps. Donc les gens cherchent des informations à ce moment-là, donc je pense que c'était très très bien pensé et c'était très très bien très très bien programmé. Alors maintenant, les gens nous ont dit que ça leur donnait la possibilité éventuellement de réfléchir un petit peu plus avant sur ce qu'ils allaient faire, sur les conséquences de cet achat. Donc ça, c'était les résultats positifs. Maintenant, ce qui concerne les résultats plutôt négatifs, eh bien, on s'est dit que ce qui marchait plutôt, c'est la promotion, les aspects de marketing, parfois un tout petit peu agressifs. Et puis, même si on arrive à sensibiliser, à faire prendre conscience des risques, on ne sait pas véritablement si les gens vont en profiter pour changer leurs habitudes, changer leur comportement. Maintenant, donc la grande difficulté, c'est de savoir comment est-ce que ces messages, comment est-ce que cette campagne de sensibilisation va avoir un effet tout à fait concret et pratique. Donc comprendre les choses, c'est une chose, mais en même temps agir en conséquence, ça c'est autre chose. Donc, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'afficher ces documents, ces informations, mais comment faire pour que les gens changent d'attitude, ça, c'est autre chose. Alors, évidemment, ça ne concerne pas uniquement les aspects phytosanitaires, un grand nombre de domaines rencontrent les mêmes problèmes, et vu la nature de cette question, ça ne rentre pas véritablement dans des cases très très bien déterminées. Et donc on a du mal à trouver le grand, le responsable, le réseau, ou la filière responsable. En général, c'est un petit peu dilué, c'est un petit peu réparti un peu partout. Et donc là, on espère un petit peu toucher plus de monde et donc essayer de trouver des responsabilités qui soient un peu partagées. Et voilà. Cette étude de cas, vous la retrouverez dans le guide. On a mené cette campagne et nous allons continuer à le faire. Donc c'est une campagne prévue sur 3 ans. Et nous allons continuer à mettre l'accent sur les aspects justement phytosanitaires. Voilà, merci de m'avoir donné la possibilité de parler de ce commerce électronique. Et j'espère vous en avoir appris un petit peu plus. Merci Bruno. Alors on aura un tout petit peu de temps, bien sûr, je veux vous le rappeler, pour les questions-réponses. Peter Thompson, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, il travaille au secrétariat de la CIPP depuis 2003. Il a été très très impliqué dans l'élaboration du cadre stratégique. Il a beaucoup travaillé sur les solutions e-phyto. Malheureusement, ça veut dire qu'il va devoir quitter pour une réunion des amis du président. Et si vous avez des questions pour Peter, peut-être, vous pourrez peut-être le retrouver pendant la session à un autre moment. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous parler de ce que nous avons fait en Nouvelle-Zélande et de notre expérience dans le domaine du commerce électronique. C'est peut-être pas unique, mais bon, en tout cas, peut-être ça vous donnera quelques petites idées. Première diapo, s'il vous plaît, voilà. Je voudrais revenir, voilà, très très bien. Donc ça, c'est pas nouveau. Le commerce électronique représente un certain nombre de problèmes, de plus en plus de volume, la complexité également. Au début, en 2019, on avait commencé à réfléchir, en 2019, c'est là qu'on a commencé à réfléchir de façon très très sérieuse. Eh bien, on a commencé à étudier ce qui se passait dans le cadre des grandes plateformes, les grands services de livraison. Et maintenant, le commerce électronique, eh bien, il se passe dans toutes les plateformes, différents réseaux sociaux, ça passe par les avions, et ça, ensuite, c'est les services de livraison Uber, par exemple, qui les livre, donc c'est de plus en plus compliqué. Donc ce dont nous avons besoin, c'est une approche multidimensionnelle pour arriver à mieux gérer les risques associés au commerce électronique. Et pour nous, différentes méthodes de coopération, de collaboration, c'est ça qui est absolument essentiel. Et ça a commencé avec la nomination d'une seule personne, d'une seule personne au sein de notre ministère, chargée de la coordination de toutes les activités liées au commerce électronique pour toute la filière. Et ça a véritablement changé la donne de façon significative. Ça, c'est les trois grands domaines dont je voudrais parler, coopération avec les plateformes de commerce électronique, coopération avec les ONPP et avec le grand public. Première étude de cas. C'est assez intéressant. Je suis allée trop vite, non? Il me manque une étude de cas, visiblement, non? Donc la première, c'est une personne qui a importé une plante d'un autre pays qui est arrivée avec de la terre sur les racines, et donc la personne qui a importé le produit ne savait pas véritablement quelles étaient les exigences phytosanitaires en la matière, ne savait pas véritablement que c'était interdit d'introduire des plantes avec de la terre, et donc il a contacté l'opérateur de la plateforme. Et donc là, on a eu une réponse typique à cette demande, à savoir, ils étaient un petit peu perturbés d'avoir envoyé quelque chose de risqué, ils étaient vraiment désolés, et ils étaient tout à fait prêts à réparer la situation, et donc cette plateforme a effectué une modification sur son site. Et donc, ce produit était mentionné comme épuisé sur le site. Ça, c'était une façon très, très facile de répondre rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que la plateforme ne s'était même pas penchée sur les risques phytosanitaires. Ils avaient un certain nombre d'exigences pour les envois dans les différents États du même pays, mais ils ne s'étaient pas posé la question de l'exportation. Et donc ça a été véritablement utile. Et pour nous, ce qui a changé la donne, c'est que nous avons des procédures normalisées avec des modèles à utiliser des lettres que l'on peut envoyer à des lettres, donc des modèles de lettres que l'on peut envoyer aux plateformes et qu'ils doivent appliquer à chaque situation. Et puis, ça nous permet également d'établir des liens avec les chargés d'affaires, les responsables de ces plateformes. Et ça, avec ces modèles, ça simplifie les choses. Et si vous n'avez pas quelque chose comme cela, eh bien, je vous encourage véritablement à vous en doter. Ensuite, autre exemple. Ça, c'est boule de mousse que je n'avais jamais vue avant. C'est un consommateur en Nouvelle-Zélande qui avait commandé ces mousses de boule. Et après cette commande, eh bien, ils se sont rendus compte en lisant des articles que c'était interdit. Et donc, ils ont essayé de renoncer à cette commande, mais c'était trop tard. Et donc, ils ont pris contact l'ONPP, l'ONPV. Et donc, nous, on a contacté la plateforme sans réponse, sans succès. Et donc ça, c'est un deuxième aspect de la coopération. Et ça, c'était véritablement essentiel parce que nous avons pris contact avec l'ONPV qui n'avait pas pu rentrer en contact avec la plateforme. Ensuite, on a réussi à joindre la plateforme puisqu'elle était dans le même pays que l'ONPV. Et là, ils se sont rendus compte que il y avait quelqu'un véritablement de leur pays et qui les suivait à la trace. Et puis ils ont pu régler les choses. Alors, ce que l'on voit maintenant, c'est que cette collaboration avec les autres ONPV, peut-être vous avez vécu cette même expérience, ça, c'est tout à fait essentiel pour gérer ces risques phytosanitaires. Et donc, on commence à travailler non seulement avec les points de contact au sein de nos pays, mais également à l'étranger. Et là, ce qui était véritablement important, ce qui était primordial, c'est que on avait à notre disposition un téléphone vert, une sorte de ligne rouge ONPV pour où on pouvait nous joindre. Autre étude de cas, et ça c'est un exemple de coopération avec le public, c'était un particulier qui avait importé une semence, des graines d'un autre pays, sans savoir qu'il y avait des exigences phytosanitaires. Le pays à partir duquel ils importaient, ils n'avaient pas de site où il y avait ces exigences qui auraient été clairement définies, clairement affichées. Et donc, ce petit collier avec des semences a été intercepté à la frontière, a été détruit. La plateforme a été notifiée, bien sûr. Mais il y a eu un certain nombre de commandes des mêmes semences, des mêmes graines qui avaient été effectuées. Et donc, elles continuent à arriver, on continue à nous signaler ces envois et ces interceptions. Et ici, la leçon pour nous, ça a été que on a essayé d'avoir une approche plutôt pédagogique plutôt qu'une approche coercitive. Et ça veut dire que un particulier ne doit pas forcément avoir peur, ne doit pas forcément craindre de nous contacter, craignant d'être poursuivi, craignant des représailles. Et ça, ça change également les choses. Et au bout d'un moment, eh bien, la plateforme a accepté d'afficher toutes les exigences, notamment avec une vidéo qui expliquait de façon très très claire les exigences phytosanitaires. Ça, ce sont des petits exemples de la façon dont nous avons essayé d'intégrer ces aspects dans notre système pour mieux gérer les choses. Et ça s'est fait au fil de l'eau, au fur et à mesure, en quelque sorte. Et je suis sûre que si on arrive à coopérer véritablement ensemble, à tirer ces enseignements, ça sera mieux et pour vous et pour nous. Merci beaucoup. Merci, Peter. Rosina Lechte. Elle travaille à l'ONPP d'Argentine. Elle travaille au programme de contrôle et de suivi des médias numérique, elle travaille dans le domaine de la planification, du développement des projets, de la mise en œuvre. Et puis, elle travaille également dans le cadre de la CENASA, dans le cadre du commerce électronique.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à intervenir. Je vais vous expliquer comment une idée est devenue un projet, comment un projet est devenu un programme institutionnel sans précédent dans la région. En mars 2023, il a été choisi par l'OMSA comme cas de réussite et utilisé pour qu'il soit répliqué dans d'autres pays. Je suis Rosina Leitch, responsable du programme de supervision de CENASA en Argentine. Et pendant les prochaines minutes, je vais vous expliquer, vous raconter, vous présenter de façon simple comment nous avons élaboré ce cas pour faire face au commerce électronique international. En 2018, on a pu constater l'arrivée de différentes plateformes de vente. On a vu l'augmentation, le développement du commerce international. On a vu qu'il fallait intervenir rapidement. Et nous avons commencé à appliquer nos compétences sur l'Internet. Alors, je dois faire défiler ma présentation. Donc, nous nous sommes posé deux questions. Pourquoi et comment mettre cela en œuvre ? Pourquoi, c'était la question la plus simple, c'était les motivations de notre pays. Il s'agissait de préserver les ressources naturelles, promouvoir, protéger les consommateurs, garantir la sécurité de nos aliments également. Et nous pensons que c'est une de nos missions essentielles en Argentine. Parce que faire autrement, ce n'était simplement pas envisageable. Nous pensons également que renforcer les liens entre l'État et les citoyens, c'est essentiel pour avoir des espaces Internet plus sûrs pour tous. Pour la deuxième question, c'était un peu plus compliqué. Comment intervenir, comment agir? Nous savions qu'il s'agissait d'un grand défi à relever dans sur une planète mondialisée avec un envoi d'un grand volume de colis achetés en ligne et qu'on ne pouvait pas intervenir de façon isolée. Donc, nous avons proposé au secteur public, privé en Argentine notre projet pour lancer cette initiative. Et nous avons eu une réponse vraiment très positive. Nous sommes aujourd'hui une équipe, une groupe de plus de 15 organisations du secteur public et du secteur privé qui travaillent ensemble en poursuivant le même objectif. Il y a des entreprises du secteur privé. Alors, je ne vais pas vous citer tout le monde. Nous venons de signer certains accords avec d'autres entités. Nous travaillons avec le courrier officiel, un centre d'information, l'organisme d'enregistrement des domaines .com/.org dans le pays. L'INPI également, l'Institut National de Propriété Intellectuelle et Industrielle, où on enregistre toutes les marques, tous les brevets pour la République argentine. L'AFIP, l'Administration fédérale des recettes publiques, qui réglemente toutes les questions fiscales pour les citoyens. L'ANMA également, l'Administration Nationale des Médicaments, Aliments et Technologies Médicales. Et puis le secteur privé également. En 2018, nous avons signé un accord de collaboration avec la plateforme la plus grande de commerce électronique en Amérique latine, qui est présente dans 18 pays. C'était le premier accord signé entre cette plateforme et une ONPV. Plus tard,
On a également travaillé avec Facebook et Instagram qui ont mis à notre disposition leur collaboration. Chaque jour, nous faisons une surveillance, nous détectons, nous présentons des rapports sur des contenus qui relèvent des compétences de la CNSA et qui sont des infractions parfois. Il y a Yopi également qui travaille avec nous. Tenamia, une entreprise numérique avec un chiffre d'affaires très élevé. Donc, il y a des entreprises également transfrontières, transnationales, et il s'agit de l'entreprise la plus grande du monde. Pourquoi? Eh bien, on peut travailler avec sur tous les produits des catalogues d'Amazon et autres, plus de 1000 millions d'articles en stock disponibles à la vente. Avec une particularité, c'est un des sites les plus sûrs que je connais. C'est-à-dire que on n'a pas la possibilité d'acheter des produits qui font l'objet de réglementations. Donc les plantes, les semences, des produits agrochimiques, des engrais, des produits vétérinaires, des aliments pour les animaux, etc. Nous travaillons également avec la Chambre du commerce de l'Argentine, plus de 2400 entreprises numériques d'Argentine qui sont représentées, et Indorweb, qui est l'entreprise d'enregistrement en Argentine, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de l'enregistrement des adresses. Donc, quand on a des produits, des infractions, ils peuvent nous aider pour pouvoir modérer le contenu de ces sites. Donc, avec ces grands réseaux, nous pouvons avoir accès à différents canaux numériques qui sont utilisés pour le commerce électronique avec des notifications très rapides. Parce que nous voulons travailler surtout sur la prévention plutôt que sur les punitions, disons. Et alors, 5 ans après le lancement de cette initiative, nous avons détecté, notifié, à ce jour, même en ce moment, hein, mes collègues sont en train de travailler. Alors, le chiffre que je vais vous donner sera dépassé dans une heure. 377 435 publications d'infractions. Ces produits ne sont plus disponibles pour aucun utilisateur. Les statistiques annuelles démontrent que le suivi et la surveillance fonctionnent. Les publications, au fil du temps, ont diminué. Les notifications ont diminué. Nous souhaitons vraiment encourager, inviter tous les pays qui souhaitent se lancer dans ce traitement de la question du commerce électronique à nous contacter. Nous pouvons vous dire que c'est possible de le faire avec un coût budgétaire supplémentaire de 0 grâce à la collaboration avec toutes les parties concernées. Et CNSA met à disposition à tous les organismes de contrôle, à toutes les autorités qui le souhaitent, toutes les informations si vous souhaitez vous lancer dans ce travail. Enfin, avant de conclure, j'ai oublié de passer la deuxième diapo, je voulais remercier tout particulièrement toute mon équipe, Ramiro, Rocío, Andrés, Claudio, qui travaille très dur chaque jour pendant des heures à superviser ce qui se passe sur Internet, ce qui nous permet d'obtenir cet impact réel très positif. Ce sont eux qui me permettent de penser à de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. Et j'apprends avec eux chaque jour. Et ils me montrent que nous pouvons toujours obtenir de meilleurs résultats en travaillant tous ensemble. Donc n'ayez pas peur, si vous souhaitez vous lancer dans ce type d'initiative, vous pourrez compter sur notre appui. Je vous remercie.
Thank you, Rosina, for such an
merci Rosina pour cette exposé qui nous a beaucoup inspiré et puis ça nous donne des idées pour la voie à suivre. Je vais maintenant donner la parole, enfin plutôt lancer la vidéo. La vidéo de Julie Rang-Sakowski, malheureusement elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui ici, donc elle nous a envoyé une vidéo. Julie est une responsable des opérations au département de l'agriculture des États-Unis. Elle travaille dans le cadre du programme CITES-CITSI, programme de respect des interdictions de la contrebande. Elle travaille également au groupe Quadrilatéral. Elle a un master en bioterrorisme, en maladies infectieuses émergentes. Et actuellement, elle travaille également dans le cadre de l'initiative de la Maison Blanche pour les habitants du Pacifique, de Hawaï et les Asiatiques américains. Vidéo de Julie. Bonjour, je travaille dans le programme de respect de l'interdiction de la contrebande. Je travaille au sein du ministère de l'Agriculture. Nous allons parler aujourd'hui de la contrebande, des produits de cette. Je vais commencer à présenter la CITES, son programme, ses missions. Le programme CITES. Donc, programme de respect du commerce et de l'interdiction de la contrebande. Nous allons parler de ce que font les États-Unis pour lutter contre la contrebande, l'évolution du commerce électronique notamment. Alors, nous travaillons dans tout le territoire des États-Unis. En plus des responsables de terrain, nous avons un certain nombre d'analystes chapeautés par la NOM, le gestionnaire des opérations nationales. Et nous travaillons donc sur deux tableaux, donc soutien aux plateformes de commerce électronique nationales, mais également lutte contre les mouvements illicites de produits agricoles. Alors notre programme a d'abord été établi pour lutter contre la contrebande au niveau des ports d'entrée. Nous avons un certain nombre de responsables qui mènent des activités de surveillance, des inspections sur place, des activités de vérification du respect, des exigences sur la base de renseignements, d'analyse de données. La modernisation, bien sûr, de l'Internet a facilité le mouvement des marchandises illicites, ou plutôt le mouvement illicite d'un certain nombre de marchandises. Les consommateurs ont de plus en plus facilement accès à ces plateformes, mais nous avons établi également des partenariats avec des plateformes telles que Amazon, eBay, Etsy, et ça nous permet de mieux cerner, de mieux identifier les mouvements au niveau national, mais également pour tout ce qui est importation. Et puis ces plateformes maintenant exigent de la part des vendeurs de respecter un certain nombre de lois, et cette coopération s'avère mutuellement avantageuse. Alors, nous travaillons avec un certain nombre de plateformes de réseaux sociaux qui, maintenant, de plus en par lesquelles passent de plus en plus les commandes et les applications mobiles, bien sûr. Ça ne nous facilite pas la tâche parce que cela permet des achats beaucoup plus discrets. Et puis, ce qui nous pose problème également, ce sont les obligations de respect de la vie privée pour les consommateurs particuliers qui ont recours, encore une fois, aux applications mobiles, ce qui s'appelle l'information d'identification, le IPP, que dans un grand nombre de pays, on n'a pas le droit de partager avec des utilisateurs non autorisés. Et donc, il y a un certain nombre de personnes mal intentionnées qui profitent de ces lois pour les détourner et pour mener des transactions illégales. Par exemple, on a un certain nombre d'exemples de vols d'identité de résidents des États-Unis. Le site a également observé qu'on utilisait des faux noms d'entreprises pour se faire passer pour des vendeurs en ligne. Et puis, le problème aussi maintenant, ce sont ce qu'on appelle les messages directs. Les messages directs permettent de rentrer en contact direct, comme leur nom l'indique, avec d'autres individus, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans des forums commerciaux. Et une fois que le lien, le contact est établi, bien, on peut mener une transaction, effectuer une transaction directement sans que cela soit remarqué par qui que ce soit. Et donc, c'est d'autant plus difficile pour nous, pour les autorités de contrôle, d'avoir accès à ces transactions. Et puis, il y a également d'autres procédés qui sont utilisés, ce qu'on appelle les trains de semences, les seed trains. Ce sont des systèmes où des colis peuvent transiter entre les différents... Entre les différents pays, et ça c'est tout à fait discret parce que ce sont des toutes petites quantités qui peuvent transiter d'un point à un autre et ensuite passer de main en main pour arriver aux utilisateurs finaux. Alors les applications mobiles aussi nous compliquent grandement la tâche. Il y a un grand nombre d'entreprises qui passe pour la vente par ces applications mobiles, et les responsables nationaux, les gouvernements, a parfois des difficultés pour retrouver, pour remonter toute la chaîne la chaîne commerciale. Alors nous essayons de collaborer avec ces plateformes, et puis il y a un phénomène que l'on appelle le broching. Le broching, c'est le fait d'envoyer un certain nombre de produits que l'acheteur n'avait pas commandé, c'est-à-dire qu'il reçoit son produit, mais en plus, il reçoit une sorte de cadeau gratuit, de bonus en quelque sorte, il reçoit en prime une marchandise supplémentaire. Et d'ailleurs, ces cas de broching ne concernent pas uniquement le monde de l'agriculture ou les produits phytosanitaires. On en a vu pour d'autres produits. Les gens reçoivent des lunettes, des chapeaux et même du papier toilette. Le problème, c'est que très souvent, on n'arrive pas à remonter la trace de ces vendeurs. Et actuellement, on essaye de travailler avec les grandes plateformes pour essayer de coopérer avec elles, pour essayer de leur faire prendre conscience de ce phénomène. Alors, nous essayons de travailler avec des plateformes comme Instagram et autres. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous donner un exemple ou quelques exemples de ce qui se fait chez nous.
Thank you, Julie, for that terrific.
Merci, Julie, pour cette formidable présentation. Julie m'a bien dit que si vous aviez des questions à lui poser, vous pouviez me les envoyer par email et je vous mettrai en contact directement avec Julie pour qu'elle puisse répondre à vos questions. Merci. Et dernière intervention avant la période de questions-réponses, c'est Suzanne Patnaud. Elle représente l'Union Postale Universelle. C'est une experte sur les questions de sécurité en lien avec les services postaux internationaux. Elle a eu beaucoup d'expérience avec sa carrière au sein du gouvernement des États-Unis, avec des postes dans la sécurité aérienne. sécurité physique, installation portuaire, etc. Susan, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Barbara. Merci à vous tous d'avoir invité l'Union postale universelle à prendre la parole aujourd'hui, l'UPU. L'UPU a été créée en 1874 à Berne, en Suisse, où elle se trouve encore aujourd'hui. L'UPU est la deuxième organisation intercommunale la plus ancienne, juste derrière l'Union internationale des télécommunications. L'UPU est devenue une organisation spécialisée des Nations Unies en 1948 et actuellement, elle appuie la mission des Nations Unies avec d'étroites relations et des activités conjointes avec d'autres organisations du système. Avec ses 192 pays membres, l'UPU est la première enceinte de coopération entre les acteurs du secteur postal. Elle permet de s'assurer qu'il y a un réseau universel. Elle établit des règles pour les échanges de courriers avec des recommandations pour qu'il y ait une croissance du courrier, de colis, de services financiers également et pour améliorer la qualité des services pour les consommateurs. Le secteur postal reste un acteur important. Il permet de connecter les personnes, les entreprises, les gouvernements. Ce secteur postal permet de faciliter la communication et sert de système également pour le commerce numérique et la logistique. Lors de sa création en 1874, les 22 pays membres représentaient le plus grand réseau de livraison. Maintenant, avec 192 pays, nous avons vraiment un système universel. Dans le monde, le réseau postal emploie près de 5 millions de personnes, dans plus de 670 000 unités postales. Chaque année, il y a environ 300 milliards de lettres et 9 milliards de colis qui sont délivrés. 80% de la population mondiale peut recevoir des courriers. Alors, bien sûr, il y a des mouvements différents pour tout ce courrier. Souvent, c'est par train ou par avion, par voie maritime ou par camion. Le centre de technologie postale de l'UPU est essentiel pour garantir un flux sans heurts des biens qui ont été postés. Et nous avons un réseau physique et virtuel complexe qui permet de déplacer un produit de son origine à sa destination avec les données associées. Chaque opérateur d'origine, de transit, de destination a sa propre chaîne d'approvisionnement qui fonctionne de façon indépendante. Mais lorsque l'on entre au niveau international, bien sûr, il faut que toutes ces offres soient intégrées. Voyons comment se passe le flux postal. Bon, finalement, il y a trois grandes parties. La première partie, c'est la collecte et l'envoi du produit, donc le prendre à son origine et le faire entrer dans le système. Ensuite, on a le transport international qui passe donc d'un lieu à un autre lieu. Et troisième point, c'est la livraison qui va arriver à l'unité de distribution et au destinataire. Donc, vous voyez ici le déplacement avec les différents centres postaux, et les unités, par exemple, d'envoi aérien, transport par voie aérienne ou par route jusqu'à l'unité destinataire. Et ensuite, on passe de l'unité d'envoi aérien à l'unité de traitement et au bureau de distribution. Ce qui sous-tend toutes ces activités, eh bien, ce sont des messages électroniques qui concernent ces paquets. On en a entendu parler aujourd'hui déjà, lors de certaines présentations. On a également entendu parler des services de coursiers. Alors, pour être clair, je voulais montrer les différences entre les opérateurs publics et les services de coursiers dans un pays. l'opérateur désigné a été désigné par le gouvernement pour fonctionner à sa demande et ils doivent appliquer toutes les règles de la convention de l'UPU. Les services de coursier n'appliquent pas ces obligations. L'opérateur désigné doit également rendre possible l'option de courrier universel, ce qui n'est pas le cas pour les services de coursier. L'UPU reconnaît que la sécurité et la sûreté du secteur postal fait partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale et est essentielle pour appuyer le commerce dans le monde et la communication. Pour faciliter le développement, la mise en œuvre de normes de sécurité, l'UPU a établi le groupe de sécurité postale. Ce groupe est chargé de l'élaboration de stratégies de sécurité mondiale et régionale pour aider les postes, avec des initiatives de formation, des missions de consultation, des programmes de prévention. Ce groupe cherche à protéger les employés, les consommateurs et les actifs des postes et à sauvegarder le courrier de toute fraude, vol ou mauvaise utilisation. Voyons quelles sont les priorités de ce groupe sur la sécurité postale. Prévention de blessures pour les personnes qui s'occupent du transport du courrier, prévenir la perte ou le vol de courrier confié au poste. Et nous travaillons également à la prévention de la perte de revenus à cause des postes et la préservation de la confiance des consommateurs envers le service postal. Nous faisons cela de différentes façons. La formation, le renforcement des capacités, c'est un outil essentiel. Ce que vous pouvez voir ici, c'est un certain domaine de formation sur lesquels nous mettons l'accent. Planification d'urgence, évaluation des risques, coordination de la sécurité dans les aéroports, lutte contre le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, procédure pour l'acceptation, le contrôle de biens dangereux et la protection au niveau international des recettes de la poste. L'organisation a cherché à renforcer les capacités pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement postale. On a adopté des normes de sécurité S58 et S59 qui définissent les exigences minimales physiques et du processus dans les différentes installations du réseau et qui définissent les exigences minimales pour le transport du courrier international. Les opérateurs désignés qui peuvent démontrer qu'ils respectent et qu'ils appliquent ces normes peuvent demander à être certifiés par l'UPU. Depuis sa création, 29 pays ont été certifiés et donc applique ces normes et vous pouvez voir ici une carte des pays qui ont été certifiés niveau or, argent ou équivalence. Équivalence lorsqu'ils ont besoin ils peuvent, s'ils ont certaines difficultés, ils peuvent présenter leur cas pour avoir des certifications. La norme S58 porte sur la sécurité physique. Donc les guichets, les portes, l'accès, les lumières, les mesures de contrôle des accès, qui a accès à quelle zone. La norme S59 porte sur les échanges de courrier international par voie aérienne, en mettant l'accent sur le fait de s'assurer que toute personne traitant ce courrier international puisse reconnaître des envois suspects et sait comment les traiter. En plus de la formation, du développement des capacités, nous avons des équipes d'experts qui permettent de travailler sur certains domaines en particulier. La sécurité routière, par exemple. On a une équipe également sur les batteries au lithium. Également, une équipe d'experts sur les biens illicites. Toutes ces équipes travaillent donc au sein de l'UPU. Alors, je vais parler des biens illicites parce que c'est ce qui est le plus lié à votre sujet aujourd'hui. L'UPU vise à mettre en place des campagnes de sensibilisation pour les postes et les clients. Il s'agit d'identifier les besoins avec du matériel de formation, établir des partenariats avec d'autres organisations spécialisées dans différents types de biens illicites, et nous partageons les pratiques optimales avec les différents opérateurs. Nous cherchons à mettre l'accent sur le marché gris, la faune sauvage, les produits pharmaceutiques. Et nous travaillons en partenariat avec des partenaires qui nous permettront de mettre au point une boîte à outils pour pouvoir reconnaître ces biens illicites dans le système et pour prendre les mesures appropriées. En plus de nos activités en interne, nous travaillons dans le cadre de différents partenariats. Partenariat informel parfois ou beaucoup plus formel avec des accords, des mémorandums d'entente ou des comités de contact. L'UPU a un comité de contact avec l'organisation des douanes, l'autorité internationale du transport aérien et l'ICAO. Voyons quels sont les bénéfices de ces partenariats. Nous avons élaboré un guide avec l'INCB WCO sur la prévention, l'interdiction d'opioïdes synthétiques non médicaux et de fentanyl lorsqu'une question de sécurité s'était posée pour ces produits lorsqu'ils se sont déplacés d'un pays à un autre. Nous travaillons avec l'ICAO pour développer une campagne sur les produits dangereux avec donc des posters, des affiches qui peuvent être téléchargées par les différents pays pour être utilisées auprès des consommateurs. Il y a donc des posters, des brochures, des vidéos, notamment sur les produits, la contrefaçon, les produits pirates. Et puis, nous préparons également du matériel pour les opérateurs désignés pour qu'ils puissent identifier des produits dangereux dans le courrier et qu'ils puissent savoir quelles mesures prendre. Et nous avons également une très bonne relation avec l'Organisation mondiale des douanes. Je pense que vous entretenez également de très bonnes relations avec cette organisation des douanes. L'UPU a cherché à étoffer ce partenariat pour que on comprenne bien le rôle des services postaux pour ce qui est du commerce électronique et que les services postaux comprennent bien le rôle également des services douaniers. Je vous ai dit qu'il y avait également toutes les données qui accompagnent le flux des courriers. Il s'agit d'un aspect très important pour ce qui est du flux de courrier. Nous utilisons pleinement les technologies et nous encourageons cela pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Ici, vous voyez comment sont échangées les données pour les produits qui sont envoyés par les services postaux pour répondre aux exigences des pays membres. Nous continuons à mettre à jour ce modèle selon qu'il convient avec nos partenaires et à améliorer également les technologies qui sous-tendent ce système. Toujours sur la question des technologies, nous sommes en train de mettre en place un outil de recherche de produits dangereux. L'outil sera disponible dans quelques mois. Il permettra d'intégrer certains systèmes de l'UPU qui existent déjà et travailler en interface avec certains systèmes externes de parties qui ont identifié ou qui démantèlent des trafics illégaux comme INCB ou Interpol. Et nous espérons que cet outil permettra d'atteindre les objectifs poursuivis. Nous continuons à former notre personnel. J'ai parlé des produits dangereux, de la sécurité, sécure avancée, transport, opérations douanières. Et nous avons plusieurs cours qui sont en cours d'élaboration sur les produits dangereux, le vol de courrier, la mauvaise utilisation des chaînes d'approvisionnement.
Nous sommes très encouragés par notre relation avec la CIPV. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir donné la parole pour intervenir aujourd'hui. Et Barbara a participé à une de nos réunions d'ailleurs. Et nous aimerions vous inviter, vous encourager à nous donner des informations, des astuces qu'on pourrait utiliser pour nos équipes d'experts ou pour les boîtes à outils que nous élaborons ou des informations que nous pourrions partager sur le site web de l'UPU. Nous vous invitons également à vous rendre sur le site web de l'UPU avec la section sur les déclarations douanières. Et nous vous encourageons à utiliser cet outil dans votre travail. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Merci beaucoup, Suzanne, pour cette présentation très intéressante. Nous en avons beaucoup appris, je suis sûre, sur les services postaux. Cela m'a en tout cas ouvert les yeux sur toute la portée de votre travail. Voilà, nous en avons terminé avec les présentations et nous souhaitions avoir du temps tout de même pour une session de questions-réponses pour vous donner la parole dans la salle. Pour que vous puissiez poser des questions, notamment. Alors, y a-t-il des questions ici dans la salle? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? N'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Sinon, j'ai moi-même quelques questions à poser. Alors, j'aimerais peut-être poser tout d'abord une question à Bruno. À votre avis, quel est le plus grand défi dans votre travail sur le commerce électronique? Merci, Barbara. Eh bien, je dirais le temps. La promotion du commerce électronique est très puissante, comme je l'ai dit dans ma présentation. On a vraiment une grande facilité, une grande accessibilité des plateformes. C'est quelque chose qui se développe extrêmement rapidement et ça doit être contrebalancé par la sensibilisation, notamment pour faire connaître l'importance de la supervision, des règles qui doivent s'appliquer pour que ça devienne une habitude. Donc c'est pour ça que je dis que le temps, c'est un véritable défi parce que les technologies elles-mêmes se développent très rapidement. Julie, dans sa présentation pour les États-Unis, à passer en revue un peu l'historique de ce à quoi ils ont été confrontés. Et vous pouvez voir que les technologies ont changé. Et bien sûr, eux se sont adaptés, mais voilà, ça continue à évoluer. Donc vraiment, le temps, la ponctualité des interventions, c'est ce que je dirais, ce que j'évoquerai. Je vois qu'il y a une question maintenant dans la salle. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Merci pour tous ces exposés, toutes ces présentations qui ont été faites. J'aurais une question à poser à Bruno. Je crois que votre système ou votre présentation reposait surtout sur les campagnes de sensibilisation. Alors, est-ce que vous avez un système de suivi ou un outil au Canada pour quantifier en quelque sorte l'effet des efforts de sensibilisation sur les comportements, disons. Enfin, les changements que ça a pu entraîner, par exemple. Merci pour cette question. Oui, nous avons cherché en effet à comprendre combien de personnes, par exemple, étaient rendues sur le site, quelles informations ils avaient pu en tirer. Pour savoir s'ils avaient pu faire une différence. Est-ce qu'ils se rappellent avoir vu les infographies, par exemple? Combien il y a eu de clics? Donc on a accumulé ce type de données et d'après notre analyse, eh bien, ils prenaient le sens de la santé, des végétaux, des mesures phytosanitaires, pas forcément le rôle, les responsabilités de chacun. Donc, justement, ce type d'analyse, ensuite, nous permet de mieux cibler nos prochaines campagnes de sensibilisation pour savoir sur quoi faire porter le message. Mais ce que l'on peut associer à cela, c'est du côté de la collecte des informations. Barbara, lors de la session de la CMP, vous avez parlé de l'importance de mettre en place une base de référence pour ce qui est des informations. Et obtenir de meilleures données pour savoir quelle est la nature du problème. Et quelle est la composante problématique pour que on soit en mesure de vraiment bien cibler notre public dans le cadre des campagnes de sensibilisation. Par exemple, nous nous sommes demandé justement qui nous devions cibler exactement. Et je pense que en disposant de meilleures données consolidées, je pense qu'on peut se retrouver dans une meilleure position pour pouvoir évaluer l'impact de nos efforts, de nos campagnes de sensibilisation. Bon, on n'en est pas là encore, tout à fait. Bref, bon, on a un peu progressé, mais il y a encore beaucoup à faire.
Thank you. Yeah, I see the challenge. You can erase.
Oui, effectivement, on peut sensibiliser, mais comment changer les comportements? C'est ça le grand problème. C'est pas tout à fait la même chose. Autre question, Nico, peut-être? Le micro fonctionne? Oui, oui. Oui, merci. Merci, Barbara. Merci à tous les orateurs. C'est vraiment très, très intéressant d'avoir entendu toutes ces expériences dans différents pays. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a eu des changements au fil du temps. On peut travailler au niveau de la plateforme, on peut travailler avec le grand public, les consommateurs, avec les réseaux sociaux. Donc, par exemple, je ne sais pas si une ONPP n'a pas encore de programme. Et s'apprête à se lancer là-dedans, par où ils doivent commencer? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? C'est une question un peu générale pour tous les orateurs, parce que je vois que les démarches sont un petit peu différentes. Oui, Turel, peut-être? Torvald.
Oui, merci Nico, merci pour cette question.
Bon, je ne veux pas faire de la pub pour nous, pour ce que nous avons fait, mais regardez quand même ce qui est dans le guide. Et peut-être un des aspects les plus importants, c'est d'essayer de trouver des moyens de coopérer, parce que c'est un problème qui ne touche pas uniquement les ONP et les ONPV, et ça va au-delà. Ça va au-delà de ce que font les ONPV en général. Il y a des partenaires tout à fait essentiels, il faut absolument trouver des moyens de coopérer au niveau des États, des gouvernements, des douanes, des entreprises, des services de livraison, de coursiers, les plateformes, etc. Et si vous commencez, vous n'avez pas besoin d'être parfait au début, de tout couvrir, commencez par un petit projet pilote, et puis essayez de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans votre pays, et puis à partir de là, vous pourrez un petit peu étoffer les choses. Diego, vous aviez une question? Oui, merci Barbara. Oui, je me demandais. Pour revenir sur ce qu'a dit Sénat, c'est une question un peu transversale, multidimensionnelle et multi-institutionnelle au niveau des États. Santé des végétaux, santé animale, sécurité, sûreté même. Et pendant toute cette semaine, nous allons essayer de voir comment nous pouvons nous impliquer dans le cadre du concept « une seule santé ». Peut-être justement, ça serait là une porte d'entrée. Ça nous permettrait de mieux faire connaître ces problèmes et de mieux faire connaître notamment les activités que nous menons dans le domaine du concept « une seule santé ». Et ça nous permettrait d'impliquer d'autres instances, d'autres organisations. Oui, oui, excellente suggestion, bien sûr. Nous en prenons bonne note. Y aurait-il d'autres réactions, commentaires? Peut-être quelqu'un voudrait faire part de ce qui s'est passé, de ce qui a été mis en place dans son pays, ou poser une question? Moi, je pose une question à Suzanne. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux ONPB qui voudraient travailler en plus étroite coopération avec leurs opérateurs postaux, désignés notamment pour tout ce qui est phytosanitaire? Vous avez dit qu'il y avait une sorte de liste d'interdiction qui existait peut-être là-dessus. Oui, merci, merci, Barbara. Il y a certaines choses à faire, oui. Regardez sur le site de l'EPU, il y a cette liste. Et puis ce que nous vous encourageons à faire, c'est de prenez contact avec les autorités des postes pour veiller d'abord à ce que sur leur site, les interdictions soient affichées. En ce qui concerne les relations, les contacts avec les douanes, avec les services postaux, ça c'est fondamental. Et puis, il y a également des réunions, des séances d'information qui devraient être organisées. Il faut partager les données, coopérer pour essayer d'impliquer tout le monde. Une fois qu'on trouve un problème, qu'il y a une lacune, on sait à qui s'adresser pour essayer de combler ces lacunes et pour essayer d'améliorer les choses ensuite pour une prochaine fois. Merci Suzanne. J'aimerais une question à poser à Rosina également. Le suivi, le contrôle, vous avez parlé du contrôle d'Internet, du recueil de données pour aider les ONPV à lutter contre les risques postaux, les risques phytosanitaires. Est-ce que justement ces relations ont joué un rôle important? Oui. Merci, merci, merci pour votre question. Oui, ça c'est vraiment très très important parce qu'il me semble encore une fois que la seule façon de se doter d'une bonne stratégie, c'est de savoir où nous en sommes. Moi je suis assez obsédée par les chiffres, par les données, mais il y a évidemment, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est suivi, qui est très très important. On connaît mieux les volumes. Je vous avais dit que nous avons 377 000 et quelques publications. Et d'ailleurs, ce chiffre a augmenté depuis le début de notre réunion. Et les statistiques, les chiffres, ça vous donne une image très très précise de la situation. Quels sont les domaines ou les zones du pays qui sont particulièrement touchées par telle ou telle infection, par tel ou tel problème. Et là, toutes les parties prenantes, les médecins, les vétérinaires, tout le monde est impliqué, tout le monde fournit des informations, des données. Et d'ailleurs, ça vaut pas seulement pour la santé des végétaux, mais pour la santé animale, pour la qualité des produits alimentaires. Et nous avons commencé à travailler il y a 5 ans, et cette année, nous avons assurer le nous avons pu assurer le le suivi de et le suivi du respect d'une centaine de normes. Et ça nous a, il nous a fallu environ 5 ans pour y arriver. Et régulièrement, nous menons des campagnes d'information sur les activités interdites. Ensuite, nous mettons en place un système de suivi. Et puis, nous essayons de sensibiliser le public, mais également les entreprises, à l'existence de ces normes. Il y a un grand nombre de données qui ont été publiées. Et encore une fois, ça concerne les produits alimentaires, les produits chimiques, les végétaux, les produits végétaux. Il s'agit véritablement d'une approche multidimensionnelle et transversale. Et très très souvent, ce qui manque, c'est l'information justement. C'est pour cela que nous essayons de fournir des renseignements, des informations les plus disponibles possibles pour que les consommateurs puissent y avoir accès. Bien sûr, l'État doit jouer son rôle. Pour être efficace, il est indispensable de renforcer les partenariats privés et publics. Et ça, c'est absolument fondamental pour avoir une approche globale. Parfois, on travaille de façon un petit peu isolée. Nous essayons de mutualiser tous les efforts, nous essayons de faire passer le message à tout un chacun. Moi, personnellement, j'essaye de parler à tout le monde. Dans ma présentation, j'ai parlé des autorités, j'ai parlé du grand public, j'ai parlé des entreprises. Il s'agit d'instances et de parties prenantes avec lesquelles nous essayons de maintenir un contact permanent. Et bien sûr, tout le monde est encouragé à fournir des informations les plus fiables possibles. Si vous voulez, je pourrais vous donner quelques chiffres pour que vous essayiez de mieux comprendre la façon dont les choses se passent. Il y a des tableaux, il y a des courbes qui sont publiées. Et quand nous commençons à nous attaquer à un problème, eh bien, en général, ça prend 3 à 5 ans pour que la courbe commence un tout petit peu à descendre. Mais tous les jours, nous devons Vous voulez que je vous donne des chiffres, des données supplémentaires? Non, je vais m'arrêter là. Très bien, j'ai compris. Oui, merci pour cet enthousiasme. Oui. Le problème, c'est que nous avons la plénière qui doit commencer dans un quart d'heure. Et même si Rosina a été tout à fait prête à vous donner des données en temps réel, mais il faudrait que vous ayez un tout petit peu le temps de souffler avant la plénière. Si vous êtes intéressé par les précisions que voulait vous donner Rosina, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Merci à tous les orateurs, merci d'avoir si bien travaillé pour préparer ces présentations, ces exposés. Merci à tout un chacun d'être là, d'avoir écouté cette réunion. J'espère que ça vous a donné matière à réfléchir. Et n'hésitez pas à envoyer à vos collègues le lien de la séance pour la réécouter. Et j'espère que pendant toute cette semaine, vous allez pouvoir continuer cette conversation entre vous, avec les membres du secrétariat. Et merci aux membres du comité d'avoir organisé cette réunion. Merci à tous.